Bonjour. Nous allons donc commencer la conférence avec Héloïse qui donc vient nous présenter son ouvrage sur Podemos ce soir. Personnellement, je suis ravi qu'on puisse faire cette conférence puisque la question de Podemos, d'abord, c'est un objet qui est finalement, qui était jusqu'à présent finalement assez mal saisi. C'est-à-dire qu'on en avait de nombreux commentaires. Alors, il y avait évidemment, d'un côté, les enthousiastes, donc proches chez nous pour la France, notamment du Front de Gauche et autres, qui finalement sont dans une extase ou semi-extase, parce qu'il peut y avoir des critiques aussi, notamment depuis l'épisode grec, hein, pour le cas de Syriza, et le soutien de Podemos aussi à la démarche de Syriza. Donc, il y a pu avoir des critiques plus récemment, mais enfin, globalement, il y avait plutôt un certain enthousiasme avec une source commune, on y reviendra peut-être sur l'Amérique latine aussi, hein, et les liens qu'il peut y avoir. Et de l'autre côté, alors ceux qui effectivement considèrent que Podemos est horrible, c'est ça y est, le communisme revient, nous allons abattre la propriété privée, les entrepreneurs seront pendus, et nous sommes menacés de tous les maux. Les sept plaies d'Égypte sont pour bientôt. Donc du coup, c'est pour ça finalement qu'il y avait un peu un problème à saisir cet objet-là. Il y avait quand même quelques travaux hein, qui pouvaient être publiés, notamment je pense à un certain nombre de politologues qui publient sur différents sites internet. Je pense notamment à un ami qui est Fabien Scalona ou d'autres qui ont pu produire un certain nombre de choses, d'analyses assez intéressante sur le sujet donc de Podemos notamment et globalement plus globalement de la gauche radicale finalement l'émergence d'une nouvelle force, une forme de recomposition finalement des gauches au niveau en particulier donc au niveau européen. Une recomposition des gauches qui est fondée finalement sur des mouvements contestataires. On le voit bien là d'ailleurs dans le sous-titre de l'ouvrage de l'indignation aux élections. Comment passer finalement d'une dénonciation d'un régime néolibéral à l'énonciation d'un projet alternatif, finalement, démocratique. Donc c'est un petit peu ça, et cette transition, finalement, d'un mouvement protestataire à des formes partisanes et d'institutionnalisation derrière. Et donc, finalement, cet ouvrage, je crois, a l'immense mérite d'apporter des éléments d'éclairage et d'analyse sur ce phénomène, et de façon très pédagogue. Ça aussi, c'est, je crois, un des points forts, je dirais, de cette analyse. En plus, une analyse qui n'est pas une analyse fantasmée, hein, c'est ça aussi le mérite, c'est une analyse de terrain. Il y a eu vraiment une immersion dans l'objet, hein, avec tout, évidemment, le recul nécessaire. Mais donc, il y a une vraie connaissance sensible et de terrain de l'objet. Et finalement, donc, une approche très pédagogue, le but étant vraiment, je pense, c'est comme ça que je l'ai perçu, toujours est-il, de rendre accessible finalement ce sujet. Et donc, notre auteur est, pour la présentation, elle est maître de conférence en sociologie à l'Université de Tours, et avec un parcours fait. Alors j'ai la liste des publications, c'est assez, c'est quand même, il y en a pas mal, hein, il faut le reconnaître, il y a une certaine production en peu de temps, puisque maître de conférence depuis 4 ans seulement et juste après la thèse, donc il y a quand même une production assez abondante, hein, sur des sujets divers. Je dis divers parce que justement à l'origine était le doctorat, et le doctorat était, je vais vous lire le titre, « Les savoirs citoyens dans l'urbanisme participatif, regard croisé sur les expériences de Paris et de Cordoue ». Donc finalement, on était déjà sur des perspectives comparatistes et plutôt sur les formes de participation, mais pas sur des mouvements d'ordre politique au sens partisan du terme, hein, mais bien sur des mouvements liés à l'urbanisme, hein, où on sait effectivement que la question de la démocratie participative, hein, au sens large, hein, est évidemment particulièrement prégnante, et donc une bifurcation, même s'il y a des éléments de continuité entre les deux, hein, la question démocratique bien sûr, mais une bifurcation quand même avec ce nouveau thème de recherche et cette publication donc sur Podemos. À noter quand même que la thèse a été publiée, alors je le dis parce qu'en plus c'est mon éditeur, donc je vais lui faire apporter de l'argent, donc la thèse a été publiée chez Le Bord de l'Eau, les éditions du Bord de l'Eau, donc qui sont situées à Lormont, donc en plus un peu de chauvinisme, il y avait déjà un lien finalement avec cette ville. Et donc Urbanisme, la parole citoyenne, voilà pour l'autre livre qui est sorti la même année, donc en 2015, mais donc aujourd'hui on est bien là pour Podemos, et finalement ce sera ma première question, c'est-à-dire quelle est l'origine, en fin de compte, donc, de cette bifurcation et pourquoi cet intérêt donc, pour ce nouveau mouvement donc, qu'est Podemos?
Bonjour et merci pour votre présentation élogieuse. Alors, pour vous expliquer un peu comment j'en suis venue à travailler sur Podemos, moi je ne suis pas une sociologue des partis politiques. Au départ, je m'intéresse surtout aux questions de démocratie participative et de mouvements sociaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà dans ma thèse, j'avais travaillé sur l'Espagne. En fait, ma thèse, c'est une comparaison entre des processus de participation citoyenne, comme par exemple des consultations sur les questions d'urbanisme, des budgets participatifs, des conseils de quartier. Et j'avais comparé plusieurs expériences à Paris avec un cas dans le sud de l'Espagne, à Cordoue, en Andalousie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai soutenu ma thèse, c'était fin 2010, et peu après, en fait, il y a le mouvement des indignés qui a émergé. Au départ, j'y suis allée pour voir ce qui se passait, ce que j'étais. Bon, j'avais vu forcément en faisant plus. Ça faisait 4 ans que je menais des recherches sur l'Espagne. J'avais vu la dégradation de la situation économique et sociale en Espagne. Et j'avais été en Espagne peu avant l'émergence des indignés. Je m'étais dit, c'est étonnant qu'il ne se passe rien, en fait. Et donc, du coup, quand le mouvement a émergé, j'y suis allée. En fait, là, j'étais assez surprise parce qu'en allant à Puerta del Sol, j'y suis allée une douzaine de jours après le début des indignés. En allant à Puerta del Sol, ce qui m'a étonnée, c'est le fait que dans les assemblées qui étaient organisées sur la place, aux alentours, il y avait une organisation très forte de ces assemblées. Et en fait, cette question de la démocratie qui m'intéressait, de la délibération, des tours de parole, de comment est-ce qu'on prend les décisions, et bien là, elle se passait sur la place, avec beaucoup de gens, hein, des assemblées, il peut y avoir des milliers de personnes, et avec une formalisation très grande de comment est-ce qu'on prend les décisions au consensus, comment est-ce qu'on fait pour s'écouter. Et donc, du coup, en fait, il y avait une continuité, du coup, avec les questions de démocratie participative. On n'était plus dans des processus institutionnels mis en place par des municipalités. Mais par contre, en fait, on posait les mêmes questions de délibération, de savoir citoyen, d'interaction. Et donc, j'ai commencé à suivre comme ça le mouvement des indignés. J'y suis allée très souvent. Je travaillais en même temps en France, donc du coup, c'est beaucoup d'aller-retour. J'ai fait beaucoup de séjours en Espagne à ce moment-là. Et puis, comme c'était un mouvement qui était vraiment passionnant, en fait, hein, c'était un gros, gros mouvement, le mouvement des indignés en Espagne, j'ai continué à suivre, en fait, les années suivantes, avec des séjours réguliers, et puis je me suis intéressée aux différentes évolutions, ce mouvement des indignés. Et donc, notamment, il y a une décentralisation dans les quartiers de Madrid, avec beaucoup d'expériences de solidarité locale, de squats collectifs. Donc j'ai suivi toutes ces évolutions, puis je suis tombée sur Podemos, en fait. Parce que une des évolutions des indignés, même s'il y a des différences, hein, dans notamment les questions de démocratie interne à Podemos, ça a quand même été un des débouchés des indignés. En tout cas, Podemos n'aurait pas existé, hein, sans ce mouvement des indignés. Donc du coup, je m'y suis intéressée. Et en plus, ça. Dans mon parcours, je m'étais beaucoup intéressée au cas latino-américain aussi, de participation et de mouvements sociaux. J'avais fait une recherche pour mon master sur le Brésil. Et en fait, Podemos s'inspire beaucoup des cas latino-américains. Donc voilà, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait de voir une expérience européenne d'un mouvement politique qui aussi se basait sur ces expériences latino-américaines. Voilà en gros le passage de la démocratie participative à un parti politique qui est très lié à un mouvement social.
Alors peut-être sur ce point, pour développer immédiatement sur la question de l'Amérique latine, effectivement, il y a clairement une source d'inspiration, hein, des mouvements des indignés autour aussi, et on va faire le lien d'ailleurs, je vais faire le double lien, c'est-à-dire à la fois Amérique latine et les intellectuels, parce que au fond et derrière cela, il y a d'ailleurs des penseurs, hein, latino-américains qui ont repris et relu en particulier un auteur qui est Gramsci. Notamment, hein, pas que ça, mais enfin, c'est quand même une source d'inspiration importante pour sortir, je dirais, de la vulgate au fond marxiste. En réalité, il y a un dépassement qui s'opère dans cette Amérique latine qui a pu inspirer également les mouvements type Podemos, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un rapport de classe. Bon, il y a les prolos d'un côté, les bourgeois de l'autre, mais on est sur un autre rapport de l'élite, c'est-à-dire la caste finalement à laquelle s'oppose le peuple. C'est pas tout à fait la même la même démarche, hein, et finalement donc il y a une autre stratégie donc de clivage et d'opposition qui se met en place. Et donc justement comment ce rapport autour de la démocratie, parce que c'est ça en fait le mot-clé, hein, si on doit dire le mot-clé de ces gauches radicales, ça se recompose autour de la notion de démocratie. Hein, je suis toujours très surpris quand je vois d'ailleurs, ils peuvent être amenés à citer Tocqueville à certains moments, ou bon, qui n'était pas le penseur le plus radical, enfin en tout cas le plus révolutionnaire qu'on puisse imaginer, peut-être malgré lui, mais en tout cas pas de façon intentionnelle. Toujours est-il, voilà, donc autour de la question de la démocratie et cette inspiration donc de l'Amérique latine et le lien notamment et le rôle des intellectuels, hein, dont Iglesias notamment fait partie, hein, et lui il est un intellectuel précaire aussi, donc il y a aussi cette dimension-là peut-être en tant que sociologue que vous pourriez nous éclairer.
C'est vrai que je vous ai dit que le Podemos c'était très lié au mouvement des indignés, mais en fait il n'est pas issu du mouvement des indignés. C'est-à-dire que ce n'est pas à la fin d'une assemblée sur la politique que les indignés auraient dit on va faire un parti politique. C'est très lié aux indignés parce que sans les indignés, il n'y aurait pas eu Podemos. Mais en fait, il vient d'une proposition principalement d'intellectuels. Professeurs de sciences politiques dans une université à Madrid, l'université de la Complutense, qui sont par ailleurs très militants et qui ont un certain nombre de points communs. Effectivement, ils sont précaires à l'université. Ils n'ont pas des postes stables pour la plupart. Ils viennent de familles politisées, la plupart sous le franquisme, hein, d'opposition au franquisme. Eux-mêmes ont des trajectoires militantes assez proches. C'est-à-dire que la plupart, quasiment tous, ont milité à un moment donné à Izquierda Unida. Izquierda Unida, c'est un peu l'équivalent du Front de gauche. C'est une coalition d'organisations, partis politiques, dont fait partie le Parti communiste espagnol. Mais la plupart sont déçus d'Izquierda Unida et de l'impuissance de cette coalition. Et ils ont surtout beaucoup milité dans les mouvements intermondialistes. C'est des jeunes, hein, aussi, la plupart, ce sont des trentenaires. Ils ont beaucoup milité dans les mouvements étudiants et altermondialistes. Et donc, il va y avoir tout, si vous voulez. Tout, moi, je me suis intéressée beaucoup justement d'où ils venaient, à leur trajectoire. Donc, il va y avoir un peu ce groupe d'intellectuels et aussi des militants d'un petit parti qui s'appelle Izquierda Anticapitalista, qui est un peu l'équivalent du NPA, hein, la gauche anticapitaliste. Et en fait, c'est eux qui vont fonder Podemos. Ils vont fonder Podemos avec effectivement une série de références communes, surtout pour les intellectuels qui vont être en Amérique latine, tant du point de vue des pratiques que des penseurs. Alors effectivement, au niveau des pratiques, en fait, ils ont beaucoup été en Amérique latine et étudié. Alors principalement, les cas sur lesquels ils ont travaillé, c'est les cas du Venezuela, de l'Équateur et surtout de la Bolivie. Et par exemple, Iñigo Errejón, qui est le numéro 2 de Podemos, il a fait sa thèse en sciences politiques sur l'arrivée au pouvoir du MAS, qui est le parti d'Evo Morales. Et en fait, il a analysé du point de vue de justement quel discours politique avait été mis en place par le MAS pour arriver à faire un projet auquel la majorité de la population s'identifie. Et donc là, il s'inspire beaucoup d'un point de vue intellectuel de Gramsci et de Laclau, qui est un penseur argentin, qui a mis en avant comment est-ce qu'on peut avoir un projet contre-hégémonique, c'est le terme de Gramsci, hein, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de dépasser les projets politiques, faire en sorte qu'on ait un projet politique auquel la majorité de la population s'identifie et considère comme étant l'intérêt général. Et donc il s'appuie beaucoup sur ses expériences latino-américaines et sur ses pensées en Amérique latine pour réfléchir à un projet de représentation politique alternative en Espagne, donc qui sera Podemos, et auquel ils ont réfléchi en fait avant les indignés. Ils ont commencé à y réfléchir, et ce qui s'est passé, c'est que quand les indignés émergent, avec la critique que ça implique au niveau du système politique en Espagne, ils se disent, là, c'est maintenant qu'il faut lancer notre parti, enfin notre mouvement, c'est le moment en fait. C'est le moment, tout ce dont à quoi on réfléchit depuis des années, voilà, il y a maintenant le moment pour lancer cette proposition.
Alors justement, sur la question de l'articulation et de ce que vous appelez la conversion finalement de l'indignation en changement politique, c'est-à-dire comment on passe donc de ce mouvement des indignés avec en fait donc une entreprise porté par quelques intellectuels en parallèle, en fait, qui bon, s'appuient sur le mouvement des indignés comme d'un catalyseur, en fait, pour propulser un peu leurs idées dans le champ politique. Donc comment exactement cette transition, finalement, ce passage a pu s'opérer?
Alors en fait, au départ, le projet est présenté comme étant un mouvement politique. En fait, Podemos émerge il y a 2 ans et demi, en janvier 2014, en disant le manifeste, c'est convertir l'indignation en changement politique. Donc il y a une référence directe aux indignés, en disant maintenant on veut que toutes les revendications lancées par ce mouvement social aient un écho dans les urnes, en fait, hein, qu'il y a un changement de politique publique. Il y a un certain nombre de continuités et de ruptures avec les indignés. Les continuités, c'est notamment dans les revendications qui vont être portées. En fait, les indignés avaient un peu deux principaux mots d'ordre, si vous voulez. Le premier, c'était une critique du système politique, comment il fonctionne actuellement, et surtout des cas de corruption qui sont très forts en Espagne. Donc, le principal slogan, c'était « Ils ne nous représentent pas » à l'égard des élus et des partis politiques. Deux partis politiques qui alternent au pouvoir depuis la fin de la dictature en Espagne, depuis ce qu'on appelle la transition démocratique, que sont le Parti populaire, donc à droite, et le Parti socialiste, le PSOE. Donc, en disant, voilà, on veut une démocratie réelle, c'était le mot d'ordre des indignés, et puis des revendications plus au niveau de justice sociale, disant lutter contre les inégalités socio-économiques qui se sont accrues en plus avec la crise. Et en fait, Podemos va reprendre ces deux principales lignes. Donc au niveau des revendications, là, c'est assez évident, les éléments de continuité. On a des éléments de continuité aussi au niveau des gens qui vont s'impliquer, surtout dans les cercles. Les cercles, c'est, si vous voulez, l'organisation de base de Podemos dans les quartiers, dans les villes. Ce sont des assemblées, fonctionnaires en assemblée. Et là, on va retrouver, dans les militants de base, beaucoup de gens qui se sont impliqués avec les indignés. Certains qui même ont commencé à s'impliquer seulement à partir du mouvement des indignés. Donc, on a comme ça des filiations avec, au niveau des militants, en fait. Et puis, cette filiation, elle est aussi mise en avant par Podemos, hein, mise en avant dans le titre du manifeste, dans aussi le fait d'organiser des manifestations à la Puerta del Sol, qui était le symbole du mouvement des indignés. Donc, elle est revendiquée, hein, aussi par Podemos. Et on va avoir aussi un certain nombre de ruptures. Et les ruptures, ça va être dans les modes d'organisation. C'est-à-dire qu'au départ, c'est vraiment lancé comme étant un mouvement politique. Il y a des cercles qui se constituent un peu partout en Espagne de manière pas très centralisée. La proposition est lancée, puis les gens le prennent un peu la balle au bon. Et en fait, très rapidement, enfin quelques mois après, il y a les élections européennes. Au départ, Podemos, c'est aussi une candidature pour les élections européennes, hein, en mai 2014. Et là, c'est vraiment une surprise. Podemos remporte 8% des suffrages, envoie 5 eurodéputés au Parlement européen. Et donc, du coup, les dirigeants de Podemos disent « Bon, bah, maintenant, il faut qu'on se structure en parti politique pour notamment les élections législatives, hein, qui ont eu lieu en décembre dernier. » Et alors, à partir de là, il va y avoir un processus d'institutionnalisation, hein, en parti politique. Il va y avoir un vrai débat sur comment est-ce qu'on s'organise, quel type d'organisation. Pendant 2 mois, il y a beaucoup de propositions qui sont faites. Mais finalement, en fait, la proposition qui est retenue, qui est celle de l'équipe de Pablo Iglesias, de ses intellectuels de la Complutense, elle est quand même relativement verticale et centralisée par rapport à d'autres propositions. Il y a pas mal de différences par rapport à un parti politique classique, mais le mode d'organisation reste quand même assez vertical, et ça, c'est très différent du mode d'organisation des assemblées des indignés, hein, qui était beaucoup plus horizontal. Donc, si vous voulez, d'un point de vue de comment fonctionnent les cercles, c'est très proche des indignés, mais comment fonctionne le parti, on va remettre une pyramide, et surtout à la tête, on va mettre un leader, Pablo Iglesias, qui va être le secrétaire général du parti, et qui va beaucoup jouer, le parti va beaucoup jouer sur l'image d'un leader charismatique. Et donc ça, c'est une grosse différence avec les indignés. Parce que les indignés, il n'y avait pas de leader. C'était vraiment quelque chose qui était beaucoup mis en avant. Et effectivement, ce n'était pas seulement... des fois, il y a des mouvements sociaux qui disent on ne veut pas de leader. Et puis, de fait, il y a des leaders qui émergent. Là, il y avait tout un système de porte-parole tournant. Donc effectivement, il n'y avait pas de leader du mouvement des indignés. Donc là, on a une grosse rupture. Puis une rupture aussi sur comment est-ce qu'on utilise les médias. Podemos va avoir une stratégie médiatique très développée, va beaucoup utiliser les médias, beaucoup la télévision. Et ça, les indignés étaient très méfiants. Hein, les garder des médias, tout simplement parce qu'en fait, quand le mouvement a émergé, les médias ont fait une couverture très négative, hein, du mouvement au départ. Et donc, là, on voit qu'il y a qu'il y a une rupture. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant des entretiens avec des dirigeants et des fondateurs de Podemos, ils assument cette rupture en disant, nous, effectivement, il y a quelque part, on a trahi, entre guillemets, quelques principes des indignés, parce que notre objectif, c'était d'arriver, là, je vais vous dire les expressions en espagnol, et puis je vais vous les traduire, parce qu'il y a un jeu de mots, c'était d'atteindre pas seulement le 15 mai de las plazas, donc c'est le mouvement du 15 mai, c'est le nom qui est donné en Espagne aux indignés, des places, donc les gens qui se sont mobilisés dans la rue, mais aussi le 15 mai de las casas, c'est-à-dire le mouvement du 15 mai des maisons, des gens qui sont restés chez eux, mais qui ont soutenu le mouvement, sachant qu'il y avait, c'est un mouvement très populaire, les indignés, il y a eu beaucoup, plusieurs sondages qui ont été faits et qui ont indiqué qu'il y avait plus des trois quarts de la population qui disaient soutenir ce mouvement. Et en fait, l'idée de Podemos, donc on voit un mouvement qui allait au-delà des clivages traditionnels, hein, du clivage gauche-droite. Et l'idée de Podemos, c'est de dire, nous, on veut avoir comme ça, faire une proposition transversale qui aille au-delà des clivages traditionnels et qui atteigne pas seulement les militants, pas seulement les convaincus, pas seulement ceux qui ont été sur la place, mais les gens qui l'ont soutenu, qui ont soutenu ce mouvement. Et pour ça, il faut passer par la télé, pour ça, faut avoir un leader, pour ça, il faut avoir d'autres canaux de communication que seulement les canaux militants.
Oui, c'est au fond une approche assez pragmatique, hein, de la politique, hein. Je pense qu'ils ont été accusés d'ailleurs d'avoir un certain cynisme de ce point de vue, mais en même temps, on ne peut pas leur dénier leur efficacité. Néanmoins, il y a deux aspects par rapport à ça. Effectivement, c'est à la fois cette dualité entre une organisation de base très démocratique, finalement, donc autogestionnaire, en fait, hein, pour dire les choses. Et puis, en même temps, donc, il y avait un livre comme ça, d'ailleurs, sur du charisme en démocratie, en fait. Je ne sais plus comment c'était le titre exactement, mais comment, finalement, faire émerger une figure charismatique dans une démocratie qui, par définition, normalement, est plurielle et ne peut pas se réduire à une personne, justement. Hein. D'ailleurs, c'est la critique souvent que les droites conservatrices ont pu apporter à la démocratie dans une forme de négation des individus. Donc il y a ce premier élément. Et le deuxième, qui me semble assez intéressant, et c'est la question de la pérennité de Podemos aussi, c'est-à-dire c'est la fragilité constitutive, vous y le dites, hein, d'ailleurs, hein, la fragilité de cette organisation qui finalement n'a pas d'assise locale. Au-delà de quelques cercles, effectivement, bon, qui peuvent se mettre en place, il y a certains endroits où c'est un peu plus institutionnalisé, bon, du fait aussi, il y a eu les municipalités. Peut-être que ça a pu, je suppose, structurer le mouvement. Mais vous dites, finalement, ce mouvement qui s'est construit de façon très verticale, dans un seul but, en fait, la conquête du pouvoir national, en réalité, donc finalement, quelle pérennité pourra-t-il avoir si jamais conquête du pouvoir national il n'y a pas? Et même s'il y a, de toute façon, comment on fait si on ne se structure pas avec des échelons intermédiaires, en fait?
Alors, il y a quand même une assise locale, mais qui est en partie perturbée par cette institutionnalisation. Il y a une assise locale parce qu'il y a quand même beaucoup de cercles de Podemos qui se sont constitués un peu partout sur le territoire. Donc, il y a quand même des organisations, on va dire, au niveau local de l'organisation. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand le parti s'est structuré et a rajouté finalement d'autres échelles de pouvoir au sein du parti, et puis surtout les a mis dans une forme plus pyramidale, il y a des militants qui sont partis. Ça a retiré du pouvoir aux militants de base des cercles qu'on avait eu au départ en s'auto-organisant, et puis on leur a mis ce qu'ils appellent des conseils citoyens. Alors les conseils citoyens, ils sont élus, hein, par les militants, à tous les échelons, hein, local, régional, national, à partir de primaires ouvertes. Donc, ce n'est pas non plus c'est pas un parti stalinien, hein, mais ces conseils citoyens élus, ils prennent la plupart des décisions. Et donc, du coup, l'assemblée des militants a moins de pouvoir par rapport à ce que c'était au départ. Et donc, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça, surtout des militants qui préféraient d'autres options qui avaient été présentées. Des options en concurrence, c'était par exemple le fait qu'il y ait plus de pouvoir au cercle, le fait qu'il n'y ait pas seulement un secrétaire général, mais qu'il y ait plusieurs porte-parole au niveau national. Et donc, du coup, c'est voir la continuité de ces cercles. C'est-à-dire que c'est un enjeu, hein, qui est posé aujourd'hui à Podemos, c'est de dire... Maintenant, alors bientôt que les élections seront passées, parce que vous savez qu'il y a à nouveau des élections qui vont se tenir en décembre en Espagne, maintenant que les élections sont passées, quelle organisation pour le mouvement. Sachant que cette structure du parti, elle avait été justifiée en disant il y a tellement d'élections, il y a eu les élections européennes et ensuite il y a eu les élections régionales, municipales, législatives. Et donc l'argument de Pablo Iglesias et de son équipe, c'était de dire finalement, il faut rogner un peu sur la démocratie interne pour un principe d'efficacité, hein, pragmatique. Donc il faut faire une machine de guerre électorale. C'était le terme qui était utilisé. Bon, bah, une fois la période d'élection passée, qu'est-ce qu'on fait de cette machine de guerre électorale ? Et comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait effectivement un militantisme qui se consolide au niveau local et, donc ça c'est un vrai enjeu. Et le deuxième, c'est effectivement au niveau des villes, au niveau des municipalités. Au départ, ce n'était pas la priorité de Podemos. La priorité de Podemos, c'est vraiment de dire pour qu'il y ait un changement en Espagne, il faut conquérir le pouvoir national. Donc c'était vraiment législative. Du coup, pour les élections municipales, en fait, ils n'ont pas été sous l'étiquette Podemos, parce qu'ils craignaient aussi, c'est un parti très jeune, hein, ça faisait un peu plus d'un an qu'il s'était constitué, ils disaient, en gros, on ne contrôle pas assez nos troupes, quoi. Enfin, on peut pas assurer que si on va sous l'étiquette Podemos, il n'y ait pas un problème dans une ville, et que du coup, ça décrédibilise pas la démarche au niveau national. Donc du coup, ils ont été au sein de coalitions d'unité populaire, compris différentes formes. Donc des fois des alliances avec Izquierda Unida, avec des mouvements sociaux, avec d'autres partis en fonction des villes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est la formule qui a le mieux marché, parce que c'est comme ça qu'ils ont remporté l'an dernier, hein, les plus grandes villes espagnoles. Hein, c'est comme ça qu'ils ont remporté Madrid, Barcelone, mais aussi des villes plus de taille moyenne comme Cadix, Saragosse, La Corogne, Saint-Jacques-de-Compostelle, enfin vraiment des villes importantes. Et du coup, ce qui n'était pas la priorité au début de Podemos, c'est devenu son principal atout, même pour la campagne nationale. C'est-à-dire que maintenant, si on regardait la campagne aujourd'hui qui se fait là pour les législatives, et pareil pour le mois de décembre, c'était de mettre en avant ces mairies du changement, c'est le terme qu'ils utilisent, pour dire aussi maintenant, on est capable de gérer, parce que c'est aussi un des arguments de leur opposant, de dire, bon, bah, c'est bien joli, vous promettez beaucoup de choses, mais bon, vous n'avez jamais été au pouvoir, donc... Et là, il s'appuie beaucoup sur ces municipalités qui ont un an maintenant de dire oui, on est capable de gérer. Par exemple, à Cadix, il y a eu un article hier qui est sorti qui disait que la dette municipale avait été réduite de 10% et le budget pour les politiques sociales augmenté de 30%. Donc de dire voilà, on est capable de gérer et de faire une politique différente. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qui est intéressant au niveau de l'ancrage municipal, de dire voilà, c'est aussi un moyen de faire ses preuves et aussi au niveau de la forme. De la coalition. Hein, aux dernières élections en décembre, Podemos a été parti seul. Il y avait déjà un forme de négociation pour partir avec Izquierda Unida, ce qui ne s'était pas fait. Et là, vu qu'il y a eu, des négociations pour former un gouvernement qui ont échoué, ils ont dit, bah, du coup, on va partir sous une autre formule, sous la formule d'une coalition d'unité populaire, Unidos Podemos, pour les élections législatives.
Alors, justement, peut-être pour revenir sur... Sur cet aspect, cette épreuve du pouvoir, quelles sont finalement à la fois les propositions qui sont portées. Moi, j'ai pu voir notamment aussi des évolutions hein, dans ces propositions. Je pense par exemple à la thématique qui est montante hein, aussi en France du revenu de base, qui était présente dans le programme aux européennes, je crois, hein, je parle sous contrôle, mais il me semble qu'elle était présente et qu'elle ne l'est plus, par exemple. Hein, donc ça peut aller aussi dans le sens d'un pragmatisme et de propositions plus immédiatement réalisables et justement, donc propositions et réalisations donc dans les mairies, hein, vous pouvez peut-être revenir un petit peu là-dessus si vous avez d'autres exemples, et derrière cela, quel est le rapport aussi à la social-démocratie, hein, on le sait en Grèce, Syriza a pris la place, hein, si on peut dire, du PASOK. Là, on a plutôt une résistance quand même, a priori, hein, du Parti Socialiste Espagnol face à ce nouveau phénomène. Il est un peu, évidemment, ça rogne un peu, mais enfin, ils ne s'effondrent pas non plus. Donc, quel est le rapport à la social-démocratie ? D'autant que sur le fond, quand on écoute, je me souviens, j'avais entendu une interview de Iglesias qui expliquait finalement que aujourd'hui, stratégiquement, du fait des rapports de force, justement entre les classes ou autres, bon, en tout cas, du fait des rapports de force, il était opportun de défendre la social-démocratie, enfin, les réalisations de la social-démocratie. C'est-à-dire, finalement, il fallait abandonner le rêve révolutionnaire, on va dire, hein, puisque lui aussi a une origine un peu communiste, hein, je crois. Donc, bon, il faut abandonner le rêve révolutionnaire et défendre finalement l'acquis de la social-démocratie. Donc ça aussi, c'est porteur d'un certain sens hein, politique. Donc quel est un petit peu le positionnement justement de Podemos sur tout ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors effectivement, je vous disais, les fondateurs de Podemos sont quasiment tous issus d'Izquierda Unida, sur Pablo Iglesias. Il était militant à partir de 14 ans en jeunesse communiste. Donc ça vous donne un peu, dans une tradition familiale hein, bien sûr, donne un peu, ça vous le situe. Alors après, effectivement, ils revendiquent beaucoup la social-démocratie, notamment récemment, en disant finalement, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer le terrain abandonné par la social-démocratie. Donc typiquement, comment ça se traduit en fait au niveau du programme électoral, si on regarde le programme de Podemos, c'est une réorientation des politiques économiques, donc de mettre fin aux politiques d'austérité, aux politiques de coupes budgétaires qui ont été très fortes en Espagne, hein, qui est vraiment des coupes budgétaires massives dans les secteurs publics, dans l'éducation, dans la santé, des plans de licenciement, des fonctionnaires, les salaires ont été baissés, enfin, c'est quelque chose qui a été vraiment très, très forte. Deux réformes du travail, hein, quand on commence à en voir un peu les effets aussi chez nous, mais c'est aussi des réformes du travail avec une précarisation très forte des contrats, des conditions d'embauche. Et donc, en gros, c'est de... Tout le projet, c'est de retourner en fait cette logique des politiques économiques en renégociant du coup à l'échelle européenne. Donc en fait, c'est assez proche de la stratégie de Syriza de renégocier les termes, notamment de la dette publique, de remboursement au niveau de l'Union européenne, et en fait de faire une politique qui soit de relance sociale, en fait, une politique d'investissement massif dans les services publics, mais aussi, par exemple, sur la question du logement. Ça, c'est un bon exemple qu'on peut aussi voir un peu quand c'est traité au niveau municipal. Parce que le logement en Espagne, c'est une question qui est centrale parce qu'elle est directement liée à la crise économique. Si la crise économique était si forte en Espagne et qu'elle était plus forte qu'en France, c'est parce qu'elle est liée à l'explosion de une bulle immobilière en 2008. En fait, on construisait énormément en Espagne. Il y avait beaucoup de spéculation et du coup, en fait, ça s'est effondré. Donc déjà, ce qui explique un taux de chômage très fort, hein, qui a été jusqu'à plus d'un quart de la population active au chômage, qui est encore de plus de 20%, parce que de tous les gens qui travaillaient dans le secteur du BTP, en fait, hein, du bâtiment. Et aussi, beaucoup d'expulsions de logements. Ça, c'est le drame social en Espagne, c'est-à-dire que les gens en fait ont contracté des crédits immobiliers qu'ils ne peuvent plus rembourser, en partie parce qu'il y a un certain nombre qui sont au chômage, et le prix de leurs biens en même temps s'est effondré avec la crise, hein, c'était complètement surestimé, et donc les gens non seulement se font expulser de chez eux, mais en plus ils gardent la dette. Donc une dette qui s'est accrue, enfin parce que leur bien ne vaut plus rien, enfin. Et donc du coup, il y a tout un mouvement social très fort contre les expulsions de logements. D'ailleurs, la maire de Barcelone, Ada Colau, était la dirigeante de l'APA, la plateforme des victimes de l'hypothèque, qui est le principal mouvement contre les expulsions de logements. Et donc il y a tout un volet important dans le programme de Podemos là-dessus, par exemple, pour dire d'interdire en fait les expulsions de logements quand il n'y a pas d'alternative qui est donnée aux gens qui se font expulser, mais aussi de construire plus de logements sociaux, parce qu'en Espagne, c'est essentiellement un modèle qui est basé sur la propriété, hein, depuis le franquisme. Donc il y a très peu de déjà, il y a très peu de logements en location et très peu de logements sociaux, donc construire un parc de logements sociaux et faire en sorte, faire une loi pour interdire le fait de couper l'eau, le gaz, l'électricité aux familles, enfin aux gens qui ne peuvent, peuvent plus payer. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet de comprendre un peu aussi la logique de Podemos par rapport à, si vous voulez, l'idéal révolutionnaire, de dire en fait, le problème aujourd'hui en Espagne, c'est de résoudre les problèmes quotidiens de la population. Et les priorités des Espagnols, c'est de pouvoir avoir un logement, enfin, de ne pas être à la rue, quoi, avoir un emploi, d'avoir accès à l'école. Et c'est pour ça qu'ils se distinguent d'ailleurs d'Izquierda Unida en mettant pas en avant, par exemple, la question de république contre monarchie ou la question de la sortie de l'OTAN, des choses comme ça qui sont des bannières de la gauche en Espagne, mais de dire non, en fait, il faut partir des problèmes quotidiens de la population, vraiment ce que sont les priorités des gens et apporter des réponses concrètes, quoi, en retournant les politiques qui ont été mises en place jusque-là par le Parti socialiste comme par le Parti populaire. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a un écho important de Podemos. Parce que finalement, même s'ils sont issus, eux, voilà, d'une culture plutôt marxiste, avec ce discours-là, ça n'a pas d'écho, quoi. Enfin, ça n'a pas d'écho en Espagne. Et par contre, en disant, on va proposer un autre projet pour résoudre les questions qui se posent et ce qui préoccupe les gens, du coup, ça rencontre un écho important. Donc ça, c'est quelque chose qui permet vraiment de comprendre le succès remporté par Podemos, et puis aussi un discours qui est très positif, qui est très, à la fois très combatif et très, très positif. Et on le voit rien que dans le nom du parti Podemos, « Nous pouvons ». Ça reprend aussi, ils reprennent un slogan de l'APA, justement, ce mouvement contre les expulsions de logements, qui est « Si c'est pouedé ». Oui, on peut. Et en fait, c'est contre tout le discours en fait, des partis politiques, des élus jusque-là, qui était dire « On ne peut pas ». On ne peut pas lutter contre les expulsions de logements. On ne peut pas lutter contre la fraude fiscale. On ne peut pas arrêter la corruption. On ne peut pas aller contre les privatisations. Et là, c'est dire « Ah, si, on peut ». Si on peut, on peut faire en sorte qu'il n'y ait plus d'expulsions de logements. On peut faire en sorte que les riches payent plus d'impôts. On peut faire en sorte... Et donc ça, je pense que c'est vraiment moteur pour comprendre pourquoi ça, les gens ont adhéré, en fait.
Oui, au fond, la question du pouvoir est assez centrale. Hein. Ils assument pleinement cet aspect-là, la conquête du pouvoir d'une part, son exercice d'autre part au service, évidemment, donc, de la résolution, donc, ce qui a été indiqué, de problèmes quotidiens. Hein. Donc ça, c'est quelque chose effectivement d'important. Peut-être aussi de ce dont on peut manquer parfois en France. Parce que bon, clairement, quand on voit l'abstention ou le vote pour des partis d'extrême droite qui effectivement sont plutôt sur des discours très forts, hein, justement, c'est aussi le sentiment de déprise à un moment donné qui se manifeste à travers ces phénomènes-là, le sentiment qu'on ne peut pas et que ça ne sert à rien donc de voter, ou alors sinon on est très réactif et on va voter extrême droite pour remettre tout ça dans l'ordre. Voilà, donc c'est un peu ça finalement la problématique. Donc ça, c'est très intéressant. Et justement, alors il y a une autre, ce sera un peu la question du parallèle, hein, et de ce qui fait aussi l'intérêt de votre parcours, hein, ce qu'on a vu sur le comparatisme, hein, donc entre l'Espagne et la France. Bon, l'Espagne, ça a été dit sur la période post-franquiste, en fait, et il y a sûrement une spécificité là aussi dans le discours, hein, la critique des élites, je crois, ça s'attache, hein, vraiment à cette donnée-là au niveau espagnol. Pour autant, on la retrouve aussi en France. Hein, toutes les institutions sont en crise, hein, on le voit bien, hein, donc que ce soit... tant d'ailleurs au niveau de l'école, de l'hôpital, de le travail social, les politiques, n'en parlons pas, les syndicats, bon, même si là, actuellement, ils ont plutôt un soutien de l'opinion, mais enfin, en tout cas, la CGT dans son mouvement, mais enfin, les syndicats sont aussi globalement décriés. Bon, même les municipalités, par exemple, le maire qui était la figure reconnue, et tout ça, même le maire commence à être victime d'une certaine forme de défiance. Donc toutes les institutions finalement sont en crise dans le cas français. Il y a une véritable érosion de ce point de vue-là. Moi, j'ai le sentiment plutôt, en fait, qu'il y a, on est sapé finalement, toutes ces institutions et toutes ces institutionnalisations sont sapées en fin de compte par tout un tas de mouvements de terrain qui peuvent prendre des formes très différentes. Hein. C'est toutes les contestations, là, on voit avec les ZAD ou quoi, par exemple, qui se mettent en place. Là, on en a une à Villeneuve-d'Ornon là qui est en train de s'installer. Juste à côté, bon, il y en aura sûrement d'autres au niveau de la LGV. Il y a l'économie collaborative qui aussi est dans un phénomène de désintermédiation et de dérégulation parfois, avec aussi toute son ambiguïté, hein, de ces mouvements-là. Bon, il y a tout un tas de mouvements comme ça qui participent finalement d'un affaissement, hein, de ces institutions, mais en même temps qui peuvent aussi les renouveler quelque part. C'est-à-dire que c'est le paradoxe un petit peu de ces formes de démocratie très spontanée, très directe. C'est-à-dire qu'à la fois, elles affaiblissent les formes de démocratie représentative et à la fois, elles peuvent les nourrir en retour. C'est ce qu'on voit avec Podemos, hein, qui, d'un mouvement de contestation, devient un mouvement, un parti politique. Voilà, donc il y a finalement ce mouvement très dialectique, en fait, qui se met en place. Alors justement, quel est en France quelle pourrait être l'influence, finalement, les incidences, les transferts culturels, pour le coup, de mouvements de gauche radicale et en particulier de Podemos, alors qu'on voit bien, hein, que la gauche est assez fracassée, puisque d'un côté, il y a le front de gauche qui est, enfin bon, si on peut parler d'un front, c'est pas toujours très clair, puisque Mélenchon fait son affaire pendant que le PC veut faire autre chose. Les frondeurs sont marginalisés au sein du Parti Socialiste, même si leur rang grossissent un petit peu. Les écologistes sont également divisés, puis il y a même eu une fracture, puisqu'il y a eu un nouveau parti même de créer. Bon, donc il y a plutôt un phénomène de décomposition au niveau français aujourd'hui, avec un problème ce qu'a très bien résolu Podemos, un problème de leadership en réalité, parce que l'enjeu, finalement, tout le monde se rend bien compte qu'il n'y a plus de possibilité de faire son affaire de son côté, qu'il faut se rassembler, mais en même temps, la question du leadership se pose, parce qu'ils veulent tous être le chef vizir, enfin le chef suprême. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et quel est un peu votre regard, justement, et quel pourrait être l'apport de Podemos, qui essaye un peu de capter en réalité Mélenchon, en particulier, mais quel pourrait être l'apport de Podemos, disons, dans notre hexagone?
Alors, c'est vrai que c'est souvent une question qu'on me pose, est-ce qu'un Podemos à la française est possible, hein? Et c'est une question que moi j'ai voulu aborder dans la conclusion du livre aussi, de dire est-ce qu'il y a un Podemos qui peut exister au-delà de l'Espagne, parce que c'est un réel enjeu qu'il y ait d'autres partis politiques, ou en tout cas même des partis existants qui prônent à une fin de l'austérité. Enfin, c'est clairement un enjeu en Europe, hein. On l'a vu avec le cas de Syriza en Grèce, qui était tellement isolé qu'il n'a pas pu mettre en place d'autres types de politiques. Et donc la question, c'est de voilà, qu'il y ait dans d'autres pays, qu'il y ait des formations qui mettent en avant d'autres types de politiques, notamment économiques. Et ça, Podemos en est très conscient, hein. Le fait d'avoir commencé par les élections européennes, c'était aussi de dire qu'il n'y aura pas de changement en Espagne s'il n'y a pas de changement dans d'autres pays européens. Alors après, c'est que c'est des contextes qui sont très différents. Hein, les contextes de l'Espagne et de la France, déjà parce que voilà, la crise économique en Espagne a été beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus intense, beaucoup plus dure en fait au niveau des conséquences sociales, et du coup voilà, ça a fait sortir beaucoup de gens dans la rue, enfin, ici aussi, mais voilà, c'était beaucoup plus important, hein. 25% de la population active au chômage, on n'en est pas là. Et donc, du coup, ça a été un facteur aussi de mobilisation, ça c'est évident. Après, le contexte politique est différent. Hein, c'est vrai que le contexte politique n'est pas le même. En Espagne, il y avait vraiment, quand les indignés émergent, un discrédit total des deux principales formations, hein, du bipartisme. Et donc là, on a une remise en cause vraiment très forte du bipartisme. Alors, même si en France, on commence à avoir aussi cette question-là, mais en tout cas, voilà, je pense que ça s'est exprimé peut-être plus fortement encore en Espagne. Et puis surtout, ce n'est pas la même composition, quelque part, à la gauche du Parti Socialiste. Et là, c'est peut-être une différence importante pour ce qu'un Podemos pourrait émerger. Clairement, en Espagne, voilà, il y avait Izquierda Unida, mais qui était aussi pas mal décrédibilisé, parce qu'ils avaient été dans des gouvernements locaux, régionaux, avec le PSOE, et même des fois, ils avaient pu appuyer le Parti Populaire. Et bon, il y a quand même un espace à prendre quelque part. Voilà, il y avait un espace à prendre, et en fait, Podemos l'a pris d'un point de vue électoral. En France, c'est plus encombré, quoi. À la gauche du Parti Socialiste, il y a quand même pas mal de formations. Hein. Il y a le Parti de gauche, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts. Il y a trois partis trotskistes. Et c'est pas forcément la même configuration. Donc, et puis c'est pas la même. Voilà, c'est pas la même histoire du mouvement social. Alors c'est que là, on a eu Nuit debout, on a eu un mouvement social qui a émergé, même s'il n'a pas été de la même ampleur qu'en Espagne. Il y a eu quand même aussi une forme d'occupation de l'espace public. Bon, mais c'est que en Espagne, on a ce mouvement des indignés qui date maintenant de 5 ans et qui clairement a été... voilà, c'est ce qui a donné le carburant aussi à Podemos. Donc la configuration est différente, ça c'est évident. Donc la forme que ça peut prendre sera probablement différente. Après, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments de Podemos dont on peut s'inspirer dans le contexte français. Cette question, je trouve, de partir des problèmes concrets de la population, enfin voilà, des problèmes de la vie quotidienne, je pense que c'est un élément qui est important, et de politiser en fait ces problèmes de la vie quotidienne. Ça me semble un élément très très important. Après, de développer un discours qui soit pas élitiste, qui soit un discours assez simple, enfin. Pas forcément simpliste, hein, mais un discours qui soit accessible, qu'on comprenne, qui permette aussi de motiver les gens. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut, on peut s'inspirer de Podemos avec ce message d'espoir dont je vous parlais. Ça a été très mobilisateur. Par exemple, le slogan qu'a utilisé Podemos lors de la première campagne pour les élections européennes, c'était quand, la dernière fois, vous avez voté avec espoir? Et en fait, pour toute cette campagne, ils se sont fondés sur une campagne qui avait été mise en place au Chili en 1988 ou 89, je ne me souviens plus, lors du référendum sur le non, oui, à Pinochet. C'était le nom qu'il avait remporté. Je ne sais pas si vous avez vu le film No, C'est un film voilà, qui, de Pablo Larraín sur cette campagne. Ce que montre le film, en gros, c'est que pendant cette campagne, en fait, les militants de gauche voulaient faire campagne sur les crimes de la dictature. En quoi c'était... et c'est vrai, ouais, c'était terrible. Enfin, ils voulaient faire campagne là-dessus. Et en fait, il y a eu toute une équipe de publicitaires, enfin, c'est ce que met en avant le film, qui ont dit, non, mais là, vous allez perdre, quoi. Enfin, ce qu'il faut, c'est faire une campagne très positive sur l'avenir, sur le fait qu'il faut tourner une page, sur un message d'espoir. Et en fait, ils se sont inspirés. Les fondateurs de Podemos disent qu'ils se sont inspirés de ce film. Et toute leur campagne, si vous regardez maintenant la campagne de Podemos pour ces élections là, qui auront lieu dimanche, le slogan, c'est « un sourire pour un pays ». Et en fait, toute leur campagne se veut très positive. Alors que ça pourrait être aussi déprimant avec la crise. On pourrait le faire sur les suicides qui ont lieu tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, les expulsions de logement ont lieu tous les jours. Et il y a un certain nombre de suicides qui sont liés à ces expulsions de logement. Enfin, on pourrait le faire sur tous les drames hein, liés à la crise. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a été vraiment un facteur de mobilisation importante. Puis après, il y a aussi peut-être pour les partis de gauche, le fait d'utiliser la... Podemos, c'est toujours qu'ils utilisent les outils de l'ennemi, notamment les sondages, la télévision, alors que souvent les partis dont ils sont issus, hein, plus partis de gauche de la gauche, vont être un peu plus réticents. Alors, ce n'est pas le cas de Mélenchon, mais il y a quand même des partis qui sont un peu plus réticents. Et par exemple, il y a des stratégies de communication qui ont été assez marrantes, qui ont été mises en avant, assez malines aussi. Pour ces élections, en fait, ils se sont rendus compte que le programme, il n'était jamais lu d'un parti politique. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait leur programme, ils l'ont édité sous forme d'un catalogue IKEA. Parce qu'en fait, le catalogue IKEA, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est le troisième document, enfin livre, si on veut, qui est le plus lu au monde. C'est fou, hein? Enfin, donc, ils se sont dit, si on veut que les gens le lisent, il faut qu'on fasse sous un format qui soit plus attractif. Et donc, du coup, ils ont pris des photos de plein de gens de Podemos, chez eux, en train de faire les tâches de la vie quotidienne, et puis en mettant toutes leurs propositions comme un catalogue. Et ça, c'est à la fois des détails, mais en même temps, c'est aussi se dire qu'il faut adapter nos supports. Voilà, si ce n'est pas attractif, un programme, faut penser autrement. Quoi. Et ça, c'est aussi ça, je pense, dont on peut s'inspirer de Podemos en France. C'est aussi dépasser un peu les manières de faire de la politique qui ne sont pas très attractives voilà, pour donner quelque chose qui fasse envie aussi aux gens. Et ça passe par le discours, mais aussi par les modes de communication. Et je pense que Podemos a bien mis ça en avant.
Un grand merci pour votre intervention, vos réponses variées et passionnées et passionnantes, parce que je crois qu'on a eu là tous les détails en plus, donc on arrive à bien percevoir. En plus, c'est ça qui était bien, parce que c'était parsemé d'anecdotes, mais signifiantes, quoi. Donc c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé votre travail avec nous.
Merci pour l'invitation, pour le débat.